plaisir.
Parce que Christophe lui doit de l'argent depuis très longtemps en fait.
On peut couper cette émission dorénavant.
Enfin, merci à vous tous qui nous écoutez si fidèlement, qui écoutez Tout Savoir sur le podcast de la rédaction de RTL, programme disponible sur toutes les plateformes d'écoute, RTL.fr mais aussi l'appli RTL, et que je vous encourage à partager. La suite,
au prochain numéro.
Il m'a fait peur.
RTL, il est 1h. 24 heures d'info, Rachel Sadodine.
Bernard Pivot est décédé à 89 ans. Le journaliste, créateur et animateur de la mythique émission télévisée Apostrophe, écrivain, président de l'Académie Goncourt jusqu'en 2019. Il restera ce passeur populaire et exigeant, cher au cœur des Français. Les mots d'Emmanuel Macron pour saluer la mémoire de Bernard Pivot, dont vous retrouvez le portrait sur RTL.fr et l'application RTL. Des faits d'antisémitisme en hausse de 300% sur le premier trimestre 2024 par rapport aux trois premiers mois de l'année dernière, annonce de Gabriel Attal au 38e dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France. Le Premier ministre déplore 366 faits antisémites sur la période. La situation qui se tend à Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, bombardée après que l'armée israélienne ait donné l'ordre d'évacuer plusieurs quartiers en vue d'une offensive terrestre. Par ailleurs, Israël annonce envoyer prochainement une délégation auprès des médiateurs égyptiens et qataris. Décision qui fait suite à l'acceptation par le Hamas d'une proposition de trêve soumise par ces mêmes médiateurs. Deuxième jour de la visite du président chinois en France, Emmanuel Macron emmène Xi Jinping dans les Pyrénées. Lundi, les deux hommes se sont entretenus avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur fond de tensions commerciales entre la Chine et l'Union européenne. Emmanuel Macron a salué l'appel de la Chine à une trêve mondiale pendant les Jeux olympiques de Paris. Pékin qui s'est aussi engagé à ne pas envoyer d'armes en Russie. Le tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde, tagué au centre Pompidou de Metz. Une artiste performeuse franco-luxembourgeoise a revendiqué les faits. L'inscription MeToo écrite à la peinture rouge sur L'origine du monde. Le tableau était toutefois protégé par une vitre. Au total, 5 œuvres ont été taguées. Toutes sont en cours d'examen par le musée. Le football et cette folle victoire de Lyon à Lille en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Score final 4-3. Incroyable, hein, remontée de l'OL dans les dernières minutes. Lille reste quatrième au classement provisoire. La Ligue des Champions avec une soirée spéciale sur RTL. On vous fait vivre la demi-finale retour PSG Dortmund en direct dès 20h dans RTL Foot avec Eric Silvestro, Nicolas Georgerot et Philippe Sansfourche pour un coup d'envoi à 21h. La météo avec un ciel encore instable, des averses sur un grand quart sud-ouest. Le temps est plus calme ailleurs mais parfois brumeux. Le soleil revient près de la Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane. Comptez 6 degrés à Charleville-Mézières, 9 pour Strasbourg et Limoges, 10 degrés à Bourges, Montpellier, Nantes et Paris, 12 pour La Rochelle et Pau. Les courses, elles ont lieu à Chantilly. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 10, le 14, le 5, le 2, le 11, le 6, l'As et l'outsider de RTL, le 14, le central.
RTL, 24 heures d'info. RTL, jour J, avec Flavie Flamand. La rediffusion.
L'actualité est faite de jour J, on vous la raconte chaque soir sur RTL. Ce soir, notre invité nous emmène là où personne ne va, à la rencontre de ceux dont les services classiques de psychiatrie ne peuvent pas ou ne peuvent plus s'occuper. Merci d'être fidèle à jour J, que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
Voici ceux que l'on ne veut plus voir. Ceux que le monde aimerait oublier parce qu'ils sont fous et dangereux. Beaucoup parmi eux ont tué ou violé. Ils sont tellement dangereux que ni les prisons ni les hôpitaux psychiatriques n'en veulent. À Cadillac, 104 hommes sont internés pour quelques années ou jusqu'à la fin de leur jour parce que jusqu'à leur mort, ils seront un danger pour ceux qui les approchent.
Notre invité est allé là où personne ne souhaite aller. Il nous y emmène pourtant ce soir. Alexandre Kaufmann, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes romancier et vous avez ouvert justement cette porte fermée. Vu de l'extérieur, c'est un monde qui fait peur. Et votre titre d'ailleurs en dit long, Un homme dangereux, ça vient de sortir il y a une dizaine de jours aux éditions Goutte d'Or. Soyez le bienvenu dans cette émission. Quand vous entendez justement cette atmosphère dans l'UMD de Cadillac, on va expliquer à nos auditeurs ce qu'est une UMD, est-ce que vous avez des souvenirs comme ça qui vous reviennent à l'esprit ?
Bah, les sons là sont assez saisissants. C'est les sons un peu flottants et erratiques qu'on entend dans les UMT, qui sont des unités pour malades difficiles. Il y en a une dizaine en France, et donc c'est des établissements ultra sécurisés qui ont vocation à accueillir les patients qui ne peuvent plus être gérés ou contenus dans les services fermés de psychiatrie classique. Donc il y a différents profils, et moi je me suis plus particulièrement intéressé aux criminels jugés irresponsables. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces unités qui sont très fermées, la vocation du personnel, c'est de soigner les patients et surtout pas de les punir.
Donc on parle de patients ?
On parle de patients et surtout pas de détenus, bien qu'il y ait aussi des détenus qui sont provisoirement transférés dans ces unités, parce qu'on peut plus les gérer en prison. Et donc on les place en UMD pour le temps qu'ils soient stabilisés.
On parle de patients, est-ce qu'on parle aussi de prise en charge ou est-ce qu'on parle de détention ? Parce que on parle aussi de personnes qui ont eu la mort au bout de la main, qui sont des criminels.
Pour certaines, hein. Donc en fait, c'est pas le cas de tous les patients, et donc ils sont effectivement pris en charge et non pas détenus, puisque encore une fois, la vocation des UMD, c'est de les amener vers une rémission, une forme de guérison, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, parce que les UMD sont vraiment très très encadrés, avec des surveillances très étroites. Pour vous donner une idée, par exemple, à l'entrée de chaque chambre, il y a un tableau Velleda sur lequel on inscrit tous les objets qui sont à la disposition des patients, et quand ils rentrent en chambre, on s'assure qu'il n'est aucun objet dangereux à disposition. Et donc, malgré ces circonstances, ces surveillances très étroites, le but d'une UMD, c'est de les aider à retrouver le chemin de la liberté, c'est-à-dire d'être transférés vers une unité ensuite classique, et de cette unité classique, peut-être retrouver le giron de la société.
D'accord. Donc on ne parle pas d'une peine de prison, est-ce qu'on parle aussi d'une peine de soins ?
Non, c'est pas une peine de soins. Ce sont des soins. Et ça doit pas être du tout envisagé comme une punition. En fait, en France, il y a une exception. Enfin, c'est l'exception française dans l'Europe. C'est que quand une personne est jugée irresponsable, la justice ne décide plus du sort de cette personne jugée irresponsable. Elle surveille juste la procédure ensuite qui est appliquée. Mais ce sont les médecins et les médecins seuls qui décident s'il est apte ou pas à être transféré. Et c'est pour la santé du patient qu'il est transféré à un moment donné. Et c'est plus du tout la justice qui décide, contrairement aux autres pays d'Europe.
On ne peut pas s'empêcher de penser aux familles des victimes qui nous écoutent ou qui ont appris effectivement la sortie de votre ouvrage. On va raconter l'histoire, raconter comment vous vous êtes retrouvés dans cette aventure à la recherche d'un homme précis, donc un homme dangereux, c'est le titre de votre livre. Vous comprenez effectivement que pour des familles de victimes, ce soit difficile d'entendre ces mots-là, le soin, l'accompagnement, et finalement œuvrer pour la sortie d'une personne qui parfois a tué dans des conditions innommables.
Bien sûr, déjà même le terme irresponsabilité, il y a quelque chose d'intolérable, c'est que derrière la perte d'un proche, il y a une irresponsabilité, il n'y a personne derrière l'acte. Donc déjà, ça c'est dur à comprendre. D'autant plus dur à comprendre que sur certaines formes de folie, elles peuvent être discontinues, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des éclairs de lucidité, c'est-à-dire qu'un schizophrène qui a tué, il peut être jugé irresponsable parce qu'il a tué, mais il peut être aussi jugé responsable dans un éclair de lucidité parce qu'il a volé une mobylette. Et ça aussi, c'est très difficile à comprendre. Et ce qui est encore plus complexe parfois, c'est que, et c'était le cas de la personne que je suivais, qui était donc considérée comme le patient le plus dangereux de France avec le plus haut potentiel de violence, c'est qu'il s'en est pris à quelqu'un de sa famille. Oui. Donc il a démembré quelqu'un de sa famille. Et donc la famille, là, se retrouve des deux côtés du préjudice, c'est-à-dire à la fois dans la famille du criminel, même s'il est jugé responsable, et à la fois du côté des victimes. Et dans ces cas-là, par exemple, moi, dans le cas de l'homme que je suivais, là, donc Bosco Gonda, eh bien la famille n'a pas souhaité se constituer partie civile parce qu'en fait c'était trop difficile pour eux de prendre parti. Et évidemment moi au cours de mon enquête même ma femme me disait par exemple ah bah ça se voit que c'est pas tes parents ou un proche qui a été tué, mais justement moi mon rôle de journaliste c'est d'avoir cette distance, de pas être sous le coup de l'émotion, et justement c'est ce point de vue là que moi j'essaie d'adopter avec une forme de distance.
Vous êtes journaliste, vous êtes romancier et vous avez effectivement cherché cet homme dangereux Bosco Gonda, on va en parler dans un instant. Répondez par oui ou par non, est-ce que vous avez eu peur quand même à un moment donné pendant cette enquête?
Oui.
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 Parce que vous l'avez touché, la folie, vraiment de très près.
Oui. Même si j'ai pas eu peur comme on pouvait s'y attendre, mais j'ai eu peur quand même.
Vous allez nous raconter ça dans un instant. On se retrouve tout de suite pour la suite de Jour J.
Bonne nuit sur RTL. RTL, vivre ensemble. Cette saison, dans RTL Bonsoir, Alex Vizorek vous présente sa visioconférence.
Hommage raté du ministère de l'Éducation nationale à Martin Luther King.
Et ouais, l'équipe de com de la rue de Grenelle a publié une petite vidéo d'enfants reprenant la célèbre anaphore I have a dream. Sauf que tous les enfants choisis sont blancs. Et ouais, pas de bol. Pas de bol. En voyant la vidéo, Éric Zemmour aurait déclaré moi aussi I have a dream.
La visioconférence, c'est tous les jours à 18h35 dans RTL Bonsoir.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J avec vous et notre invité Alexandre Kaufmann ce soir pour une émission finalement qui nous plonge dans un univers dont on ne connaît rien. C'est un sujet tabou que sont les UMD. On vous en parle ce soir, les UMD qui sont les unités pour malades difficiles, et justement dans ces malades difficiles, il est des criminels que vous avez rencontrés, même si criminel n'est pas le bon mot selon la loi française en réalité, Alexandre Kaufmann.
À partir du moment où une personne est jugée irresponsable, on considère qu'elle est malade et non plus auteur. Mais aujourd'hui, depuis une réforme qui a été passée par la loi Dati en 2008, les faits sont établis. Donc en fait, les personnes jugées irresponsables sont reconnues coupables. Donc en fait,
on peut employer le mot criminel, mais ça peut prêter à confusion. Tiens, à propos de Dati, rien à voir, mais ça a à voir. C'est qu'en fait, c'est le premier objet qu'on vous a donné lorsque vous êtes arrivé dans une UMD. C'est quoi un Dati ?
Ouais, tout à fait. Un Dati, alors en fait, dans cet univers très fermé où en fait il y a environ une dizaine de portes qui sépare la chambre d'un patient du monde extérieur. On m'a donné deux objets, faisant confiance d'ailleurs, pour évoluer dans cet environnement très fermé. C'est d'abord une goutte, un badge qui permet d'ouvrir l'essentiel de ces portes, pas toutes, et effectivement un Dati, comme le nom de la ministre, qui est un dispositif d'alerte pour travailleurs isolés. C'est un petit boîtier noir, et lorsqu'il reste allongé plus de 15 secondes, ce qui arrive souvent en cas d'agression, il sonne l'alerte dans toute l'unité.
D'accord. Et donc, dans ces cas-là, on vient secourir donc le soignant qui est susceptible d'être agressé par un de ces patients dangereux. Hein, parce qu'on peut dire aussi, je disais il y a un instant, vous avez côtoyé la folie, vous l'avez touché de près, vous l'avez vu. Est-ce que vous vous étiez déjà confronté à ce point, à ce genre de dérive ?
Non, moi en fait j'avais surtout une image d'étudiant en littérature de la folie, la folie un peu solaire, la folie des surréalistes que j'aimais bien et tout. Et là, j'ai découvert vraiment la folie pathologique. Et même si ça casse un peu l'ambiance, je m'en suis vite aperçu puisque je suis très vite tombé sur un patient qui mangeait ses excréments chaque matin. Et donc là, ça casse vite l'ambiance romantique de la folie littéraire.
Quand vous êtes rentré dans cette UMD, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce que ça a déjà été compliqué finalement d'en pousser la porte ?
Bah en fait, c'est assez délicat, puisqu'en fait, le secret médical est beaucoup plus dur à percer que le secret qui entoure, par exemple, les procédures pénales. Il faut savoir que, par exemple, le dossier des patients est rendu public 120 ans après leur naissance. Donc moi, pour la personne que je cherchais, qui était donc considérée comme le patient le plus dangereux de France, ça m'aurait emmené jusqu'en 2096. Et donc, grâce à la confiance en fait du personnel soignant, on s'est mis d'accord pour que je modifie certains antécédents. Je devais pas chercher à identifier les patients, trouver leur véritable identité, ni à chercher leurs antécédents. Mais bien sûr, évidemment, par curiosité, on est toujours tenté de le faire. Donc, en fait, dans ce monde très fermé où il y avait le secret médical d'un côté, le délire des patients et les allusions plus ou moins explicites des soignants, finalement, je me suis retrouvé à naviguer comme dans un polar psychiatrique où évidemment je pêchais un petit peu des informations et j'essayais de découvrir évidemment ce qu'avaient fait certains patients. Alors, ils n'ont pas tous commis des crimes.
Ce polar psychiatrique, justement, on le vit à chaque page de ce livre que je conseille vraiment à nos auditeurs. Vous cherchiez un homme, c'est Bosco Gonda. La première fois que vous en avez entendu parler, c'était dans quelles circonstances ?
Au tout début, je faisais un reportage sur les crimes en psychiatrie et dans le cadre de ce reportage, j'ai rencontré un patient, Claude B, qui était considéré comme une sorte de monument carcéral. Il avait passé 40 ans enfermé entre la prison et les hôpitaux psychiatriques, parce qu'en fait, il avait commis un meurtre au départ, mais il était resté enfermé 40 ans. Et donc, il avait connu, lui, il parlait quasiment des UMD comme un guide touristique. Il pouvait dire, ah là, dans cette UMD-là, la nourriture est bonne, ah là, le personnel est sadique. Et bon, il avait un aspect un peu difficile à gérer et paranoïaque, mais il avait connu une multitude de patients. Et parmi ces patients, il m'a parlé donc d'un certain Bosco Gonda qui considérait, lui, ce monument carcéral comme le plus dangereux de France. Donc, que ça a piqué ma curiosité, et j'ai essayé d'en savoir plus sur lui, et de savoir quelle espèce d'avenir un homme comme lui pouvait encore espérer, et donc j'ai commencé à reconstituer son parcours, et à partir sur ses traces dans l'espoir de le rencontrer.
Alors, pour le rencontrer, vous avez donc poussé la porte d'un premier UMD. Alors, il faut préciser que c'est un monde, donc vous l'avez dit, qui n'est pas un monde carcéral, néanmoins, ces personnalités difficiles et parfois criminelles sont donc dans des chambres protégées par différentes portes, elles ne peuvent pas avoir accès à tous les objets du quotidien parce qu'elles peuvent en blesser d'autres ou elles peuvent se blesser elles-mêmes. Il y a des codes, en fait, dans les UMD. C'est ce que l'on vit à travers votre livre. On pousse une porte et là on se rend compte que on parle pas la même langue et on s'adapte finalement à la folie des patients.
Bah en fait c'est très très encadré, mais encore une fois c'est dans une perspective thérapeutique de soins. C'est vrai qu'il y a des règles très strictes à respecter, donc de lever, coucher, retour en chambre, c'est très ritualisé. Mais malgré ce côté très surveillé, il y a une ambiance aussi très flottante. Et au début, d'ailleurs, malgré l'ambiance sonore d'ailleurs qu'on a entendue en ouverture là, qui peut être un peu perturbante, il y a aussi une ambiance qui peut être assez calme. Et ça, c'est une des premières choses qui m'a frappé, c'est qu'on s'attend à voir des fous furieux. Et en vérité, d'abord, on trouve des personnes qui paraissent assez faibles, assez vulnérables. Moi, par exemple, j'ai vu un homme qui avait commis des actes de cannibalisme, qui était en charentaise sous la pluie, en train de fumer une cigarette. Donc là, on oublie vite le criminel, le cannibale, et on voit d'abord le malade.
Ils écoutent de la musique?
Ouais, ils écoutent beaucoup de musique. Et d'ailleurs, parfois, c'est un peu assourdissant parce qu'en fait, il y a souvent de la musique très fort. Alors, j'ai pas entendu RTL, mais il y avait beaucoup de rap, du drill d'ailleurs. Les patients demandent toujours au personnel de monter le volume. Et ça fait toujours l'objet de négociations entre les patients et les infirmiers.
Les patients ont une identité, mais néanmoins, ils ont surtout des surnoms.
Oui. Alors, il y a une partie de ces surnoms qui leur ont été apposés pour des raisons de confidentialité et d'anonymisation, mais ils se donnent aussi volontiers des surnoms entre eux. Et une des choses qui est les plus intéressantes, d'ailleurs, que j'ai trouvé les plus intéressantes, c'est les rapports entre les patients eux-mêmes, parce qu'en fait, ils ont une sorte de lucidité entre eux qu'on soupçonne pas. C'est-à-dire que certains patients peuvent dire « Ah non, lui, il faut absolument lui augmenter son dosage », et c'est assez frappant, parce qu'il y a une étude qui est l'une des études les plus citées dans la littérature psychiatrique, qui s'appelle l'expérience de Rosenhan, qui démontre cette lucidité. Je vous la raconte rapidement. C'est donc un professeur qui, au début des années 70, demande à 12 personnes parfaitement saines d'esprit de se faire admettre dans un hôpital psychiatrique en simulant des hallucinations auditives. Et une fois qu'ils sont rentrés dans l'établissement, ils ont pour consigne de redevenir totalement normaux. Et aucun d'entre eux ne parvient à ressortir, puisque les psychiatres prennent chacun de leurs mouvements comme la manifestation d'une pathologie psychiatrique. Mmh. Et les seules personnes qui sont capables de repérer les fraudeurs, ce sont les autres patients, qui disent à eux, c'est des faux patients. Mmh. Et donc, moi, j'ai pu observer ça, cette lucidité qui est assez inattendue. Par exemple, un jour, je les entendais pousser des cris d'animaux dans le réfectoire, et puis je demande à l'un d'eux, mais pourquoi est-ce que vous poussez ces cris d'animaux dans le réfectoire? Et il hausse les épaules et il me dit, on est quand même dans un hôpital psychiatrique.
Vous avez rencontré Casque Bleu, vous avez rencontré Hamlet, vous avez rencontré Pamplemousse. Tiens, vous allez nous parler dans un instant de ces tatouages. Ce sera tout de suite dans Jour J.
Jusqu'à 2h sur RTL, Jour J, la rediffusion.
C'était Tears for Fears sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Je vous conseille un livre, Un homme dangereux, aux éditions Goutte d'Or. Notre invité est son auteur, Alexandre Kaufmann. Vous êtes journaliste, vous êtes romancier, vous êtes reporter indépendant. Et un jour, vous vous êtes dit, je vais partir à la recherche du patient d'UMD le plus dangereux de France. Son nom, c'est Bosco Gonda. Vous êtes parti avec très peu d'informations. Et votre livre, c'est l'enquête que vous avez menée pour retrouver cet homme en faisant la connaissance de tous ses pairs, je dirais, eux-mêmes patients dans des UMD. Certains donc ont été, certains mangent leurs excréments le matin, d'autres mangent d'autres êtres humains, des actes de cannibalisme. Ils sont d'une violence incommensurable et pourtant ils sont jugés irresponsables. Est-ce que parfois ils en appellent à leur meurtre ? Est-ce que parfois ils évoquent aussi ce qu'ils ont fait ?
Alors en fait, juste derrière ça, là, ce qu'on décrit, c'est les antécédents, c'est les crimes qu'ils ont pu commettre, et ça, du coup, ça paralyse un peu la pensée. On se dit ah, c'est un cannibale, il a mangé les organes d'une vieille dame. Mais très vite, quand on pousse la porte d'une UMD, on voit ce qu'il y a derrière les antécédents. On découvre des personnes assez vulnérables qui subissent eux-mêmes le poids de leurs crimes et de leur passé. Il y a un peu tous les cas. Il y avait par exemple un patient qui me rappelait tout le temps, qui me disait ah Alexandre, tu sais que j'ai coupé la tête de ma copine. Il faisait ça pour un petit peu électriser tout le monde. Mais la plupart du temps, ils sont en souffrance par rapport à ce qu'ils ont commis. Et donc au début, on est forcément saisi par les cas les plus spectaculaires. Donc par exemple, il y en avait un qui s'appelait Rokai, qui était atteint d'une maladie génétique rare qui lui donnait des facultés lexicales décuplées.
Le roi du Scrabble.
Le roi du Scrabble, il voulait tout le temps jouer au Scrabble avec moi parce qu'il pensait qu'en tant que journaliste, j'étais un professionnel des mots. Et en fait, il me battait à plat de couture à chaque fois.
Et les premiers mots que vous avez trouvés lors de la première partie, c'était prison.
J'étais pas du tout concentré sur la partie Scrabble, donc je trouvais des mots, curieusement, ça devait être mon inconscient. Bêta, tué, fou, j'avais même honte de les mettre. Et il comprenait pas, il me trouvait vraiment médiocre. Et donc souvent, l'humour a été une bonne porte d'entrée pour se rapprocher des patients. Souvent, en fait, par exemple, un des premiers rapports que j'ai eu avec un patient, c'était Rocket, justement, qui voulait savoir si j'étais journaliste au Daily Planet. Et en réfléchissant un peu, je me suis dit, Daily Planet, c'est le journal pour lequel travaille Superman dans le civil. Donc il y a plein de choses qui sont assez étonnantes comme ça. Il y a aussi des choses incohérentes mais qui peuvent frapper l'esprit. Il y avait un patient qui souffrait de troubles de la reconnaissance. Donc en fait, il appelait certains patients Juppé, d'autres Chirac. Et c'était une force de la nature, il était très animé. Et moi, il m'appelait gendarme. Parce qu'en fait, moi, il savait pas trop, je portais pas de blouse. Donc j'étais en civil, comme il disait, donc je suscitais leur curiosité. Donc les patients venaient souvent vers moi. Certains pensaient que j'étais un patient d'ailleurs. Donc, parfois, on rigolait, je leur disais, je sors juste d'isolement, je suis un nouveau patient, sur le ton de la blague. Et puis certains pensaient que j'étais un policier en civil. Mais donc ce patient qui souffrait de troubles de la reconnaissance, il m'appelait gendarme. Les soignants m'avaient dit, si un jour il t'appelle Patrick, c'est son frère qui lui a volé sa ferme et là il faut que tu traces de la zone patient.
Ce qu'il y a de dingue, c'est que, et pardon de le dire comme ça, d'abord parce que c'est effectivement dingue quand on le lit, mais c'est qu'il nous arrive vraiment de sourire. C'est-à-dire qu'il faut le dire, ce livre en fait est à la fois fascinant parce que il nous fait peur, parce que vous nous racontez une folie que l'on ne voit pas, c'est la folie cachée, la folie taboue, la folie condamnable d'une certaine façon, en tout cas en jugement moral pour, je pense aux familles des victimes qui nous écoutent. Et en même temps, il y a des situations, pardon, mais moi je me suis marrée quoi, ouais, en fait, en lisant votre livre. Est-ce que c'est ce qui vous a sauvé aussi vous au contact de cette folie ?
C'est vrai que pour trouver un point de passage entre ces deux mondes, et souvent l'humour s'impose parce que ça permet sans doute de mettre à distance une situation dramatique. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais moi j'ai lors de cette immersion, j'ai beaucoup ri avec les patients.
Vous parlez de l'isolement, ça c'est un terme que l'on pourrait entendre dans une prison, ouais, justement. Alors, pourquoi sont-ils à l'isolement ? Est-ce que c'est quand ils ont dépassé les bornes, si je puis dire ? Est-ce qu'ils sont conscients de leurs actes dans ces cas-là ?
Alors là, c'est assez intéressant parce que il y a effectivement, quand il y a des patients qui sont en crise, on les place à l'isolement et encore plus dur, on peut les placer, on les contentionner, c'est-à-dire les mettre sous lien de contention. Mais alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que dans les unités pour malades difficiles qui sont ultra sécurisées, il y a moins de contention et d'isolement que dans les unités classiques fermées, qui sont au niveau en dessous en termes de sécurité, parce que justement, il y a presque deux fois plus de personnel par patient, et plus il y a de personnel, moins il y a de contraintes. Et d'ailleurs, moins il y a de neuroleptiques aussi. Par exemple, on peut penser qu'ils sont sous camisole chimique dans une unité ultra sécurisée. Maintenant, justement, en fait, comme on a plus le temps, par exemple, dans l'UMD où j'étais, quand les patients arrivaient, on baissait leur traitement, pour que le brouillard retombe un petit peu, pour poser un diagnostic précis, et on repartait sur une ligne de neuroleptique plus précise. Donc en fait, en moyenne, ils sont moins sédatés, moins contentionnés et moins isolés que dans les services classiques où il y a beaucoup moins de moyens.
Donc quand il y a de l'humain est essentiel aussi pour ces gens-là. C'est-à-dire que la solution, ça n'est pas de les mettre dans une cellule, ça les fera pas avancer.
Ce qu'il faut aussi comprendre, et parce que ça fait l'objet de beaucoup de débats aujourd'hui, on se soucie beaucoup de la sécurité. On se dit, d'ailleurs, l'UMD où j'étais a été construite à l'initiative de Nicolas Sarkozy pour des enjeux sécuritaires, et c'est pour ça qu'il y a des moyens. Mais en fait, on oppose des choses qui en fait marchent ensemble, c'est que plus la qualité des soins est bonne, plus la dangerosité des patients baisse. Par exemple, un patient qui est suivi une fois par semaine a 4 fois moins de chances de passer à l'acte et d'être violent qu'un patient qui n'est suivi qu'une fois par mois. Donc là, on voit bien qu'en fait, plus la qualité des soins est là, plus il y a de personnel, moins les patients sont violents.
Est-ce qu'on cherche à leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes ? Puisque le but, c'est de les faire sortir, reprendre une vie dans la cité. Est-ce qu'on considère qu'ils ne pourront le faire qu'à partir du moment où ils auront réalisé ce qu'ils ont fait ?
Alors il y a 2 conditions essentielles, il peut y en avoir plusieurs, mais les 2 grandes conditions pour être transféré du MD, c'est important de dire transféré, c'est pas sortir du MD, on sort jamais en sortie sèche du MD, on est transféré vers une unité fermée classique. Et pour être transféré, il y a 2 conditions, c'est qu'il faut effectivement d'abord reprendre contact avec la réalité, que les schizophrènes la plupart du temps ont perdu, parce qu'il y a beaucoup de schizophrènes, il faut à la fois reconnaître sa pathologie, et ensuite accepter un traitement. C'est les 2 conditions. Et donc évidemment, un patient qui ne reconnaîtrait pas sa pathologie et sa maladie mentale considère qu'il est encore dedans, quoi.
On va se retrouver dans un instant. On n'a toujours pas parlé de pamplemousse, mais on va y arriver. Et en même temps, c'est vrai que ces conversations sont passionnantes et elles nous emmènent toujours vers d'autres choses et encore d'autres choses. On n'a pas fini avec vous ce soir. On se retrouve dans un instant dans Jour J.
RTL, Jour J.
rien comme les autres. C'était Calogero sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Et toujours en compagnie d'Alexandre Kaufmann, notre invité. Alexandre, tous ceux que vous avez rencontrés lors de votre enquête pour retrouver un homme dangereux, Bosco Gonda, que vous avez fini par retrouver. Mais alors, c'est toute l'aventure que vous racontez dans ce livre. Donc on va pas le faire ce soir. On va laisser nos auditeurs le découvrir. Tous ces patients, vous les croiseriez dans la vraie vie? Est-ce que vous penseriez qu'ils sont fous?
Non, alors justement, c'est ça qui peut paraître paradoxal. Il y avait beaucoup de patients, je dirais presque même la majorité. On reste à peu près 10 mois dans ces unités ultra sécurisées, là, les UMD. Et il y en a beaucoup qui sont tranquilles, paisibles, en voie de rémission. Il y en avait notamment un qui avait noyé le chien de ses parents. Et qui, vous aviez aucun moyen, je pense, si vous le croisez dans la rue, de voir, enfin, de comprendre qu'il était schizophrène. Il était totalement en rémission, en voie de stabilisation. Et rien vraiment n'aurait pu indiquer qu'il avait commis ces actes sans queue ni tête.
C'est ça qui est flippant lorsque l'on lit votre livre, c'est de se dire finalement que la folie, elle revêt des visages de l'ordinaire. Quand vous nous parlez de ce papy en charentaise qui a commis des actes cannibales, on se dit finalement, ben, ça peut être, pardon, mais le petit papy du sixième de mon immeuble. C'est ça qui rend la folie encore plus angoissante.
En fait, c'est que la folie, d'abord, ça fait pas si longtemps que ça qu'on sait qu'elle est.
Qu'on la considère.
Qu'on la considère et qu'elle est curable. Avant l'invention de la psychiatrie, en gros, les fous étaient considérés comme fous à jamais et fous tout le temps. Et justement, la psychiatrie considère qu'il y a des voies d'amélioration et que la folie n'est pas forcément continue. Et c'est ça qui est assez difficile à comprendre. Ça peut être des accès. Moi, j'ai vu des patients qui stabilisaient. Il fallait découvrir peu à peu aussi la folie qui s'immisçait dans leur discours. Donc justement, je pensais à Pamplemousse, qui est un personnage que j'avais rencontré, et il parlait tout le temps de ses sœurs qui, soi-disant, étaient séquestrées dans les sous-sols de l'unité psychiatrique. D'ailleurs, il n'y avait pas de sous-sol dans l'unité psychiatrique, mais il était persuadé que ses sœurs étaient enfermées là. Et au bout d'un moment, j'ai demandé aux soignants pourquoi est-ce qu'ils pensaient ça, et en fait, ils m'expliquaient qu'en fait, ses deux sœurs, il les avait étranglées il y a 10 ans. Voilà. Donc en fait, on comprend pas tout de suite la forme de folie, et elle est pas du tout continue, et il y a, encore une fois, il y a plein de patients qui sont en voie de rémission et qui sont totalement stabilisés, avec lesquels on peut discuter de plein de sujets de manière totalement rationnelle.
Pamplemousse, le tatoué que j'évoquais tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a des évaluations qui sont régulières?
Oui, tous les 6 mois, il y a donc une commission de suivi médical qui évalue l'état du patient, puisqu'en fait, il faut que ça soit très encadré, puisque comme c'est quand même une privation de liberté qui est très importante et qui au début est indéterminée, à la différence d'une peine de prison, quand on rejoint un UMD, on ne sait pas pour combien de temps. Ça, il est important aussi de rappeler que souvent, c'est un fantasme collectif. On pense qu'en fait, un criminel, il s'est réfugié en planque dans un hôpital psychiatrique et que c'est tranquille. Ça, c'est nourri par toute la littérature. Par exemple, Ulysse, lui, il avait simulé la folie pour pas participer à la guerre de Troie. Par exemple, pendant la Révolution française, il y avait des aristocrates qui simulaient la folie pour se cacher dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a même aussi des journalistes qui ont nourri ce fantasme, qui se sont fait interner pour décrire les hôpitaux psychiatriques. Et donc, c'est une sorte de fantasme collectif. Et moi, ce que j'ai vu dément totalement cette idée, puisqu'il y avait des détenus qui étaient placés provisoirement dans les UMD, où j'étais, et eux, ils comptaient les jours avant de pouvoir revenir en prison, tellement les conditions étaient la surveillance était tellement plus étroite dans ces unités psychiatriques qu'en prison. Donc en fait, eux, pour eux, c'était pas du tout une planque.
Ceux qui ont fait de la prison et qui arrivent à l'UMD, on les repère parce qu'ils ont un comportement singulier.
Ouais, tout à fait. En fait, c'est vrai que par exemple, à leur manière de tourner dans la cour de promenade et à leur manière de faire leur lit, et parfois disent les soignants, puisque ce sont des choses que m'ont rapporté les soignants, à la manière dont ils mangent. Même les soignants qui sont pas tout de suite avisés de où ils viennent, parce qu'il y a plusieurs profils de pensionnaires dans une UMD, dont ceux qu'on appelle les D398, qui sont donc des détenus dont la santé mentale s'est dégradée en prison. Et eux, ils repèrent toujours à ce genre de détails qui sont assez frappants.
On y pratique aussi des électrochocs.
Oui, ça c'est assez surprenant.
Alors ça a un côté vol au-dessus d'un nid de coucou. Ouais. On a l'impression que c'est l'autre temps.
Oui, c'est pas du tout réservé aux UMD, puisque c'est un traitement qui est curieusement, c'est vrai, ça peut être méconnu, qui est réservé à certains cas de dépression. Alors c'est utilisé dans les UMD pour les patients qui sont dits chimio-résistants, c'est-à-dire sur lesquels les molécules de neuroleptiques ou d'antipsychotiques n'ont aucun effet. Moi, j'ai par exemple rencontré un patient qu'on appelait casque bleu, parce qu'en fait, il pouvait pas sortir de sa chambre sans être coiffé d'un casque en mousse bleue, comme un sparring partner sur un ring de boxe, parce qu'en fait, c'était pour le protéger contre lui-même et aussi pour protéger les autres, parce qu'il coulait des coups de boule à tout le monde. Et lui, c'était un patient qui était un des cas les plus extrêmes de l'UMD, parce que on avait essayé, je crois, une vingtaine de molécules sur lui et aucune ne fonctionnait. Et la seule chose qui améliorait un petit peu son état de santé, c'était ce qu'on appelle la sismothérapie, qui sont donc les électrochocs. Et donc, c'est effectué dans un bloc opératoire. Donc, par exemple, Casque Bleu, je l'ai vu recevoir ces séries qui sont pas si spectaculaires que ça, d'ailleurs. Et les patients sont anesthésiés, on leur donne un curare pour pas qu'ils se cassent des os. Et lui répondait simplement aux électrochocs. Mais il avait le droit de les refuser aussi. Et donc, son état empirait quand il voulait pas accepter les séances de sismothérapie.
Ah, donc les soins se font quand même avec consentement?
Alors, ça dépend. Il y a traitement, par exemple, la sismothérapie, c'est avec le consentement du patient.
Ok. Vous, on vous a proposé une expérience qui est la contention. Vous l'aviez évoquée tout à l'heure, mais vous n'avez pas voulu y aller.
Non. En fait, c'est vrai qu'il y avait un soignant qui, d'ailleurs, gentiment me disait la contention, il faut vraiment l'essayer pour voir ce que ça fait.
Expliquez à nos auditeurs de quoi il s'agit.
Alors, c'est d'être en fait attaché par des liens à un lit. Et donc, c'est pour ne plus pouvoir bouger. Et en fait, la manière dont il me proposait ça, c'est vrai que je suis pas spécialement paranoïaque, mais je me suis dit, ouais, c'est vrai, finalement, si là, je suis attaché et à la merci des soignants, et qui me dit que finalement ils me trouveront pas bizarre, et que cette idée, elle nous traverse l'esprit quand même. On se dit, on est totalement à la merci.
Vulnérable.
On est vulnérable. Mais encore une fois, et c'est faut le rappeler, c'est que dans les UMD, la contention est moins utilisée que dans des unités fermées classiques.
J'imagine nos auditeurs là qui sont en train de vous écouter et qui peut-être font le même visage que Marc Bisset, qui est le réalisateur de cette émission, Céline Bonnet, qui est la productrice. Alexandre Kaufmann, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant, parce que parmi tous ceux que vous avez rencontrés, il en est un qui s'appelle Romain Dupuis. Il est l'auteur d'un crime absolument abominable qui a traumatisé la France. On est en 2004, on vous le rappelle dans un instant.
Jusqu'à 2h sur RTL, jour J, la rediffusion.
We could walk forever, walking on the moon. We could.
RTL, jour J, avec Flavie Flamand.
À Pau, Romain Dupuis, 21 ans, est passé aux aveux. Il a reconnu le double meurtre de l'infirmière et de l'aide-soignante. Pas de mobile précis, il a seulement expliqué ce geste par son ressentiment envers le corps médical, mais il ne connaissait pas les deux victimes. Romain Dupuis, rappelons-le, souffre d'une forme grave.
Romain Dupuis, voici donc... Oh, c'est difficile de dire un fait divers. C'est tellement moche d'ailleurs, cette expression fait divers. Voici donc un crime, un assassinat qui a marqué la France entière. On était donc à l'automne 2004, c'est ça,
Alexandre, hiver 2004.
Hiver 2004.
Ça n'a pas été reconnu
Alexandre
comme un assassinat, Kaufmann. Comme un meurtre. Mais...
Évidemment, mais vous voyez dans le ressenti en fait.
Oui.
On va resituer cette affaire pour les plus jeunes qui nous écoutent.
Alors, donc Romain Dupuis, c'est sans doute le schizophrène le plus connu de France, puisqu'en effet, à l'hiver 2004, il se rend dans l'hôpital psychiatrique de Pau, où il tue une infirmière et une aide-soignante. Il décapite donc l'une d'elles, et son cas va devenir tellement médiatique et susciter tellement d'émotions dans l'opinion publique que lorsqu'il va être, au bout d'une longue enquête judiciaire et médicale, être reconnu irresponsable, susciter une telle indignation que Nicolas Sarkozy décide d'engager une réforme sur le statut de l'irresponsabilité pénale. Et moi, dans l'enquête que j'ai suivie dans mon livre, je suivais donc un patient en particulier qui était considéré comme ayant un très haut potentiel de violence, Bosco Ngonda, et j'ai eu la surprise de découvrir au milieu de mon enquête qu'il était l'un des meilleurs amis. Romain Dupuis était l'un des meilleurs amis de la personne que je cherchais. Donc j'ai commencé à m'intéresser à son parcours et à essayer de le rencontrer, ce que j'ai fait. Donc j'ai découvert peu à peu Romain Dupuis, et c'est vrai que une fois encore, derrière l'effroi des antécédents, on découvre aussi là un malade. Et lui, son cas était devenu tellement emblématique, tellement médiatique, que finalement, c'est même allé contre les procédures en cours, puisque il a été placé à l'UMD de Cadillac, où il a rencontré donc la personne que je cherchais. Il y est resté 18 ans. Et au moment où j'ai rencontré, il y était depuis 17 ans, alors qu'en moyenne, on reste à peu près un an en UMD. Et depuis 5 ans, les commissions de suivi médical, qui décident donc de son transfert, encore une fois, pas sa sortie, mais de son transfert vers une unité psychiatrique classique. Depuis 5 ans, les commissions médicales étaient favorables. Mais le préfet, qui devait avaliser cet avis, il n'avait pas le droit de refuser, donc il ne répondait pas. C'est un cas inédit de non-réponse de l'État qui était décidé par la préfète de Gironde de l'époque. Et donc moi, j'ai décidé d'approfondir ce cas particulier au fil de mon enquête, puisque à la fois, il avait changé la loi. Et c'est vrai qu'on était face à un cas inédit qui respectait pas vraiment les avis médicaux. Et donc j'ai essayé d'en savoir plus et je suis parti à sa rencontre. Et donc lui aussi, j'ai voulu qu'il me raconte ce qu'il savait du patient que je cherchais.
Est-ce que Romain Dupuis, aujourd'hui, vit comme tout le monde ? Parce que ceux qui nous écoutent sont forcément en train de se demander où il est.
Bah, Romain Dupuis, il a connu justement depuis 5 ans, depuis 6 ans même, aujourd'hui, les médecins décrivent des progrès médicaux. D'un côté, il y a des antécédents effroyables, et puis de l'autre, il y a un dossier médical qui décrit des progrès. Alors évidemment, ça peut paraître curieux de parler de progrès quand on vient de tels antécédents, mais en tout cas, son état permet aujourd'hui un transfert en unité fermée classique, selon les médecins.
Mais c'est quelqu'un qui sera pris en charge jusqu'à la fin de ses jours ? Ou vous pensez qu'un jour, il va recouvrer une liberté?
En fait, je crois que pour les schizophrènes, je suis pas psychiatre, mais qu'on parle jamais totalement de guérison, mais de rémission. Mais encore une fois, je pense qu'on peut pas préjuger. C'est ça aussi qui est délicat pour les criminels jugés responsables, c'est qu'on ne sait pas pour combien de temps ils vont rester. C'est les médecins qui vont décider ce qu'il en est. Et les médecins eux-mêmes, finalement, ils ne prétendent pas s'appuyer sur des vérités scientifiques. Les psychiatres, même dans leurs expertises, ils s'appuient sur des raisonnements médico-légaux qui sont différents de la vérité. Eux, ils essaient de faire coïncider les normes du droit avec les contours mouvants et imprécis des pathologies mentales. Donc c'est une rencontre qui est assez incertaine, d'autant qu'en fait il n'y a pas de définition précise du contrôle des actes ou du discernement. Et la seule chose sur laquelle on peut compter dans cette rencontre incertaine, c'est sur l'expérience et le savoir-faire des psychiatres. Et il y a une chose qui leur permet de faire un bon travail, c'est le temps. C'est-à-dire que plus ils ont du temps, plus ils inscrivent leurs expertises dans une dynamique, plus leur travail est reconnu de qualité. Et aujourd'hui, ce temps, il manque cruellement, puisque il y a une aversion pour le risque dans notre société, et les magistrats demandent toujours plus d'expertise à des experts qui sont toujours moins nombreux. Et donc, les psychiatres décrivent aujourd'hui ce qui, sous un terme péjoratif, ils appellent ça les expertises McDo. Voilà, donc parce qu'il manque de temps.
Quand ils sortent, ces malades, ces patients, est-ce qu'ils sont accompagnés ? Parce qu'un psychiatre peut préjuger sa possibilité à vivre à l'extérieur, normalement, dans la société. Mais bon, à partir du moment où le psychiatre a donné son feu vert, est-ce que ces patients sont accompagnés? Parce que tout à coup, ils peuvent se retrouver sans soins et ouais. C'est là où la société a raison d'avoir peur.
Les psychiatres sont vraiment conscients des limites de leur discipline. Puisqu'en fait, il y a un psychiatre qui me disait, estimer, faire des prévisions sur la dangerosité d'un patient, c'est comme faire des prévisions météorologiques. Plus elle s'éloigne dans le temps, plus c'est difficile de se prononcer. D'ailleurs, moi, la personne que je suivais, enfin que je cherchais à rencontrer, Bosco Gonda, avait elle-même fait l'objet d'expertises contradictoires. Il avait d'abord été considéré comme non dangereux après l'un de ses premiers passages à l'acte. Et puis ensuite, ça a été contredit par d'autres expertises. Donc finalement, il est allé en prison où il avait rien à faire puisque finalement, il a tué l'un de ses co-détenus. Donc il est revenu en hôpital psychiatrique. Et donc, on peut effectivement, à la fin d'un parcours médical, même si c'est pas déterminé depuis le début, retrouver le giron de la société. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut être aussi en soins sans consentement à l'extérieur de l'hôpital. C'est-à-dire, vous êtes obligé de vous soumettre à un traitement. Vous êtes, par exemple, en appartement, puisqu'on a décidé que vous étiez capable de vivre de manière plus autonome en appartement, mais vous pouvez continuer à vous soumettre à des soins contre votre consentement. Et si vous ne le faites pas, vous êtes réintégré dans l'hôpital.
Enfin, il y a quand même une forme de nomadisme, c'est ce que j'entends.
Il peut y avoir une forme de nomadisme. C'est développé, c'est ce qu'on a, enfin, c'était la psychiatrie de secteur, c'est-à-dire que il y a eu aussi des théories psychiatriques qui considéraient que c'est en retrouvant aussi un environnement social que le patient pouvait aussi accéder à une forme de guérison ou de rémission.
Bon, on se retrouve dans un instant, on va parler de Bosco Gonda. Ça a été votre quête pendant combien de temps? 2 ans?
Pendant 2 ans.
Vous avez fini par le retrouver?
Et j'ai fini par le retrouver.
Grâce à Romain Dupuis?
En partie.
En partie, mais parce qu'en fait, ce qu'il y a de dingue aussi, c'est que vous venez de nous dire que Romain Dupuis et Bosco Gonda, qui sont des hommes dangereux et malades, ouais. étaient meilleurs amis.
Ouais. Même si la dangerosité, c'est une perception un peu subjective, tu restes à prendre
avec précaution. J'entends bien. J'entends bien. On se retrouve dans un instant.
RTL, jour J. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. Alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. And no one
Taylor Swift et dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Bon, je vous parlerai du livre dans un instant parce que, en fait, dès qu'on s'arrête, dès qu'on n'est plus à l'antenne, on ne parle que de ça, Alexandre Kaufmann, parce que c'est un ouvrage qu'on a eu entre les mains dans cette rédaction et je peux vous dire vraiment qu'il nous a fait un effet incroyable. Ça s'appelle Un homme dangereux. Cet homme dangereux, il s'appelle Bosco Gonda. Vous l'avez cherché pendant 2 ans. Votre livre, c'est une enquête et vous avez fini par le trouver. Qu'est-ce qu'on en ressent quand on recherche la pépite? Pardon, de nos pensées, de nos obsessions, et qu'elle est là, en face de nous, et qu'on sait aussi tout ce qu'elle a fait.
En fait, déjà, c'est là où j'estime ne pas avoir perdu mon temps, c'est que la personne que j'ai trouvée était très différente de ce que j'imaginais au départ. Donc, il y a eu une évolution. Au départ, j'ai abordé Bosco Gonda, qui était donc considéré comme un des patients les plus dangereux de France, par ses antécédents. Et donc, il avait commis plusieurs crimes. Deux, il avait tué 2 personnes, dont une personne de sa famille qu'il avait démembrée, au cours d'une permission de sortie. Et donc, au départ, moi, je m'imaginais une sorte de monstre sanguinaire. Et peu à peu, en fait, l'histoire du livre, de mon enquête, qui a duré 2 ans, c'est d'essayer de trouver la part d'humanité qui se cachait derrière tous ces antécédents effroyables. Et curieusement, peu à peu, je l'ai découvert. Et finalement, ça peut paraître curieux, mais la personne que j'ai fini par rencontrer, si j'avais pas su que c'était lui, enfin l'auteur de ses antécédents, je l'aurais trouvé, et ça peut paraître difficile à comprendre, mais parfaitement normal, sympathique. On a discuté du prix Goncourt ensemble. Il voulait pas me parler, donc c'est pour ça que j'ai tout fait pour modifier ses antécédents et qu'on puisse plus l'identifier, puisque...
Oui, c'est votre promesse au début du livre. Hein. Vous dites protéger, pour protéger aussi les familles des victimes, pour protéger ça, alors je ne sais pas si on dit ça comme ça, à réinsertion.
Son parcours médical.
Et son parcours médical, je n'en dirai pas plus.
Ouais, parce que c'est
et vous avez brouillé les pistes.
C'est difficile à comprendre, mais c'est quelqu'un qui est considéré comme malade, comme vulnérable. Et avec ce livre et l'exposition, il ne fallait pas que moi je nuise à ce parcours médical.
Vous avez cru le rencontrer plusieurs fois,
ouais.
Mais ça n'était pas lui. C'est ça aussi qui est dingue, et c'est ça aussi l'objet de votre livre.
Bah, c'est aussi, moi ça m'intéresse aussi d'explorer. Moi j'étais aiguillé dans les arcanes du secret médical, aiguillé par le délire des patients, et finalement je savais que même si parfois j'ai pu m'égarer dans le délire des patients en essayant de comprendre des choses, j'explorais en même temps ce monde-là. Et donc en fait, certains schizophrènes me renseignaient sur d'autres schizophrènes qui m'envoyaient parfois sur des fausses pistes. Et donc c'est en naviguant comme ça dans ce polar psychiatrique que j'ai fini par retrouver l'homme que je cherchais, qui n'était pas celui que j'imaginais.
Vous nous parlez de l'homme et vous nous expliquez que vous l'avez trouvé sympathique, assez érudit pour parler littérature avec vous, donc que vous aviez en face de vous une personne que vous pouviez considérer comme normale au prime abord. Est-ce que vous avez été touché par ceux que vous avez rencontrés? Est-ce qu'il y a quelque chose chez eux, en dépit de tout ce qu'ils ont pu faire, qui vous a touché? Est-ce qu'il y avait quelque chose de pathétique dans le sens pur du terme?
La plupart étaient quelque part un peu avilis par leur pathologie. Il y a tout de suite, d'ailleurs, la note pathétique, c'est quelque chose qui frappe tout de suite quand on rentre dans l'univers d'un UMD. C'est la maladie, il y a quelque chose de très triste. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est aussi racheté par une forme d'humour parfois. Mais encore une fois, c'est pas du tout des criminels. Même il n'y a pas que des criminels en UMD, mais en tout cas, ceux qui sont criminels, quand on les voit, c'est vrai, la plupart du temps, sauf ceux qui sont dans un état très agité, les personnes qui sont malades. Donc, on découvre des gens en plus qui évoluent. C'est-à-dire que moi, je pensais, c'est vrai qu'au début, on pense que quelqu'un qui est fou, il l'est pour toujours.
Ouais.
Et on voit, moi, par exemple, comme j'ai eu l'occasion de rester assez longtemps dans ces unités, j'ai vu au début, par exemple, un patient qui avait coupé la tête de sa femme. Et au début, il arrivait, il était complètement méfiant. Il se mettait dans un coin, il regardait les soignants, il nous regardait avec une tête complètement paranoïaque. Je me disais, lui, il en tient vraiment une grosse, grosse couche. Et puis, je suis revenu quelques mois plus tard. Et puis, on discutait ensemble. Il était parfaitement fluide. Enfin, il était complètement stabilisé. Et c'est vrai que ça m'a étonné. Et les soignants me disaient, il répond extrêmement bien au traitement, il s'est très vite stabilisé.
Est-ce que vous avez changé de regard, Alexandre Kaufmann, en 2 ans, en menant cette enquête et en ayant rencontré tous ces patients?
Bah oui, c'est en fait, j'ai changé de regard, puisque moi, au départ, comme un peu tout le monde, je voyais le côté spectaculaire des crimes et je m'imaginais des monstres sanguinaires très, très effrayants. Et puis, ce que j'ai découvert, c'est vraiment tout autre.
Ça s'appelle Un homme dangereux. C'est le livre d'Alexandre Kaufmann que je vous conseille aux éditions La Goutte d'Or. C'est non seulement une histoire passionnante d'enquête, mais on y apprend aussi beaucoup de choses. Et cette lecture nous rend peut-être un petit